talmudique. Olivier Munich, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la littérature juive en langue grecque dont nous avons commencé à parler la semaine dernière à l'occasion de la fête de Hanouka, cette fête qui se déroule cette année du 12 décembre jusqu'au 20 décembre au soir. Ce soir sera donc allumée la 6e bougie. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature grecque à l'Université Paris-Sorbonne, chaire de littérature religieuse de l'Antiquité tardive. Vous êtes aussi spécialiste de la Bible grecque des Septante et de Philon d'Alexandrie, ainsi que de Flavius Joseph, dont vous venez de faire paraître une introduction et un commentaire au livre de La guerre des Juifs aux éditions des Belles Lettres. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, vos recherches vous ont aussi conduit à travailler particulièrement sur les sources scripturaires de la fête de Hanouka que vous nous avez présentée dans un article important intitulé « Le premier livre des Maccabées entre fresques dynastiques et traditions rabbiniques ». Ces livres des Maccabées écrits en grec nous ont conduit à nous intéresser à la littérature juive écrite en grec, littérature qui n'est pas anecdotique dans la construction de l'identité juive comme nous avons commencé à l'évoquer la semaine dernière. Cette dualité linguistique, l'hébreu et le grec, est sans doute l'un des échos de cette manière de penser l'identité comme dialogique entre deux cultures, entre deux langues, entre les langues, expression chère à Nourrit Aviv et Heinz Wissmann. Il faut souligner, d'ailleurs, que nombreux sont les textes qui penchent plus pour l'attraction, pour un lien privilégié avec le grec, sa langue et sa pensée, en assumant toujours, bien sûr, les différences fondamentales entre les deux cultures, car il ne s'agit pas de dire « il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs », mais de comprendre le dialogue qu'ils peuvent entretenir. Je ne résiste pas à vous citer un commentaire que j'ai trouvé dans un article de Pierre Savy qui cite le Midrash Shachar qui fait remarquer que le mot Tzion, Sion, peut se décomposer en deux. La lettre Tzadé d'une part et Yon d'autre part, mot lui-même formé des lettres Yud, Vav et Nun qui écrivent le mot Yavan, c'est-à-dire la Grèce en hébreu. Ainsi, au cœur de ce que révère le judaïsme, au cœur de Sion, se trouverait la beauté de la Grèce, de Yavan. On retrouve l'argument du Talmud qui autorise la traduction de la Bible en grec parce que, dit Rabbi Shimon ben Gamliel, la langue grecque est belle. Texte que Lévinas commente ainsi, « Le grec, c'est le langage du déchiffrement. Il démystifie, il démythise, il dépoétise aussi. Le grec, c'est la prose du commentaire, de l'exégèse, de l'herméneutique. Langage qui entend traduire et toujours à nouveau traduire. » Comment, Olivier Munich, comprenez-vous cet éloge du grec ancien fait par Lévinas ? Qu'y a-t-il dans le grec de cet infini de l'interprétation à fleur même de la langue ?
Écoutez, vous avez eu raison de rappeler le traité Megillah qui nous dit qu'il est alpi alaha, il est autorisé de lire un Sefer Torah en grec. C'est extraordinaire. Et les décisionnaires, le Roche ou Rambam, ont été obligés, pour revenir sur cette décision, de dire que le grec s'était détérioré, il s'était abîmé, pour écarter. C'est Yafet, c'est la langue Yafa, mais la langue belle, mais le grec s'est abîmé. Alors, réservons-nous du grec, cela relève du dérapage contrôlé sur le plan de l'interprétation. Maintenant, pour le grec de Lévinas, il me semble que c'est le fruit de son imagination. Démystifier, les auteurs grecs de juifs de langue grecque que j'étudie adorent le langage mystérique. Démythifier la troisième Sibylle, un texte juif du 1er siècle avant l'ère chrétienne, réécrit la Genèse selon le vers d'Homère et mélange les personnages de la Genèse aux dieux de l'Olympe. Je pourrais vous citer aussi, dépoétiser une réécriture de l'Exode en trimètres iambiques et de l'Euripide. Les juifs de langue grecque ont adoré les formes poétiques du grec et non pas les formes discursives. Néanmoins, je pense à la fameuse citation de Platon dans les Lois, lorsqu'il dit que la philosophie c'est un jeu sérieux. Quelle meilleure définition de l'exercice rabbinique, le jeu sérieux. Cela était fait pour plaire aux rabbins.
Est-ce que la langue grecque nous invite particulièrement à l'interpréter ?
La langue grecque, ou plutôt la la païdéia, la culture grecque, c'est un horizon que tous les locuteurs, que tous les hommes cultivés ont dans la tête. C'est une Bible portative, n'est-ce pas? Donc on a besoin de la poésie, puisqu'on a surtout interprété le texte d'Homère. Et les méthodes d'interprétation se sont faites non pas sur des textes spéculatifs, mais sur des textes poétiques, en particulier l'allégorie des stoïciens. Donc je résiste, il faut le mythe, il faut la poésie pour penser. Il n'y a pas de coupure entre les deux pour les Grecs et il n'y en a pas pour les lecteurs juifs de langue grecque.
Au début, les Juifs traduisirent en grec car leurs conditions d'immersion en culture grecque leur étaient devenues familières. Nombreuses furent ainsi les communautés qui parlèrent le grec et qui ont continué à user de cette langue, même lorsque ces communautés passèrent sous domination romaine, ce qui semble le cas pour ce personnage important que fut Flavius Josèphe, dont j'aimerais que vous nous présentiez d'abord la biographie, Olivier Munich.
Une biographie, une vie extraordinaire. Joseph ben Matthias, né à Jérusalem vers 37, c'est un Cohen et il rappelle que par sa mère, il descend des rois asmonéens, un enfant prodige. Il expérimente les différentes sectes et il opte pour le pharisaïsme, c'est un pharisien. Il est, en 66, lorsque la guerre éclate, désigné comme général des forces juives en Galilée. Et il se présente dans la guerre des Juifs comme un général exemplaire. Vient un épisode qui nuit à une appréciation claire des choses. C'est ce que j'appellerais l'épisode de Yotfat, Jotapata. Avec ses hommes, il est encerclé par les Romains. Il dit à ses compagnons qu'il ne faut pas mourir. Il lui impose un suicide collectif, tirage au sort organisé par Joseph. Il est l'avant-dernier à devoir mourir. Il dit à son camarade, passons du côté des Romains. Une histoire qui a nuit, Joseph le traître, mais enfin... une histoire qui ressemble aussi à une autre histoire, Yohanan ben Zakkai, qui sort de Jérusalem assiégé dans un cercueil. Et autre parenté extraordinaire, Joseph annonce à Vespasien, le futur empereur Vespasien, qu'il sera élevé à l'Empire. Yohanan ben Zakkai annonce aussi à l'empereur qu'il sera élevé à l'Empire. Donc nous avons deux extrêmes qui se ressemblent à force de s'opposer. Donc il est d'abord prisonnier des Romains et il suit la guerre et le siège de Jérusalem comme interprète de Titus. Quand Vespasien est élevé à l'Empire, il est libéré et après la guerre, l'empereur lui offre des livres sacrés, un domaine, puis il devient citoyen à Rome. Joseph ben Matthias est désormais Titus Flavius Josephus. Alors j'insiste, un traître, non. Le neveu de Philon d'Alexandrie, Tibère Alexandre, sera commandant en second des troupes romaines contre Jérusalem. C'est un traître. Mais les notables juifs, les pharisiens, le roi Agrippa, sa sœur que Racine a rendue illustrissime, Bérénice, tout le monde est hostile à la guerre. Les sicaires, pendant les années qui précèdent, tuent avec leurs sicas, leurs petits couteaux. Mais dès que la guerre éclate, ils se réfugient à Massada et n'apportent aucune aide aux habitants de Jérusalem. Donc, non pas un traître, et surtout, ce que je voudrais insister, on a un défenseur passionné du judaïsme, dans le Contrapion. Il réfute toutes les calomnies anti-juives. Alors, adoration d'un âne dans le Saint des Saints, dévoration annuelle d'un grec, serment de misanthropie contre les Grecs, tous ces motifs qui passeront directement dans la littérature antichrétienne. Et comme dans l'Apologie de Socrate, qui est son modèle, après avoir réfuté, il expose. Et il va exposer quelque chose de tout à fait nouveau. Il introduit en grec un mot, le mot théocratie. Joseph, père du mot théocratie. La théocratie, c'est la loi selon Moïse, c'est la loi de Moïse. Et il compare cette loi de Moïse à la République de Platon, au régime de Sparte. Et dans les deux cas, il montre la supériorité du judaïsme. Donc on a un conservateur de toutes les attaques anti-juives extraordinaires. Et aussi, on a un apologète du judaïsme. Donc, un transfuge de la guerre juive, oui. Un transfuge du judaïsme, non.
Merci de remettre les choses au clair. Joseph écrit les antiquités juives et la guerre des juifs. Il écrit en grec lui-même, même s'il dit qu'il se fait aider par un groupe de proches pour cela. En quoi son œuvre est si fondamentale, d'une part pour les historiens en général et pour les études juives en particulier? Que nous apprennent les antiquités juives et particulièrement la guerre des juifs, Olivier Munich? Vous venez d'en dire quelques mots, mais je pense que on peut compléter cette bibliographie.
Cela nous apprend tout, sauf ce qu'il ne veut pas nous dire. C'est un extraordinaire conservateur du temps, du lieu et de la mémoire. Le temps d'abord. Dans les antiquités juives ou judaïques, il reprend son récit à la création du monde et il l'arrête en 66 de notre ère, le début de la guerre juive. Dans la guerre des juifs, il commence au Maccabée, puisque les Maccabées ne font pas partie de la Bible juive, et il va jusqu'à la fin de la guerre, Massada, la destruction des Sicaires, jusqu'en 74, c'est l'ensemble du temps du monde. Le lieu maintenant, je parlerai surtout du livre 5 de la guerre des juifs, puisqu'il est au programme de l'agrégation, et je l'enseigne à mes étudiants des lettres. Lorsqu'il décrit le temple, lorsqu'il décrit la stèle qui interdit aux non-juifs de passer dans la cour des Israélites, eh bien, ce qu'il nous dit est corroboré par une stèle qu'on a trouvée à la fin du XIXe siècle sur le mont du temple, qui dit exactement ce que nous dit Joseph. Joseph a la valeur d'un témoignage épigraphique. Mais la mémoire, enfin. Joseph a vu Jérusalem, il a vu le temple, il y est entré, c'est un Cohen. Et il a vu la destruction du temple. Donc, lorsqu'on lit Joseph, on a un pèlerinage de la mémoire. On pourrait dire, en pastichant Zweig, la mémoire d'un judéen. Le monde perdu, mémoire d'un judéen.
C'est-à-dire que il décrit le temple, on peut le suivre comme dans une promenade à l'intérieur du temple de Jérusalem, enfin du second temple.
Je croyais que c'était une promenade. C'est beaucoup plus sérieux. Et ce qui m'a aidé à le voir, c'est le résumé qu'il fait du livre 5 au tout début, dans les premières pages du livre 1. Pourquoi ? Il dit qu'il va donner les mesures, métra en grec. Métra, en hébreu, c'est midot. Donc nous avons une description du temple qui est la plus ancienne et qui est toujours comparée avec le traité midot. Mais aussi, dans cette introduction, il dit qu'il va décrire les 5 puretés. Agneias, Kedushot. Or, nous possédons un autre traité du Talmud qui nous montre que le mur, la muraille est moins sainte que la cour des nations que la cour des Israélites, etc. Or, dans sa description du temple, il suit la description de Midot. Dans sa description de la sainteté, il suit la description de cet autre traité. Nous n'avons pas affaire à une promenade touristique, mais à une promenade rabbinique. Et il a une extraordinaire connaissance de sources pré-mishnaïques. Ce qui est passionnant, c'est que cet homme vit contemporain de Yohanan ben Zakkai, vit donc avant la première génération des Tanaïm. Or, que ce soit la façade du temple, qui est comme un lion, il parle des épaules du temple, Ariel, dans le traité Midot, le temple, c'est comme un lion. Que ce soit l'autel des encens, il n'y en a pas 4 comme dans l'Exode, il y en a 13. Or, dans le Talmud et dans la prière quotidienne, on parle des 13 encens. Donc, notre auteur, je ne dis pas que c'est Minerve qui sort tout armé de la tête de Jupiter, mais je dis que il en sait beaucoup sur la loi orale, ce qui est extrêmement important à une époque où on a tendance, dans l'historiographie moderne, à retarder cette loi orale par rapport aux dates connues. Joseph est là pour nous prouver le contraire. Mais, il y a ce qu'il dit, et il y a ce qu'il refuse de dire. Il décrit les lieux, dans le détail, jusqu'au sein des saints. Quand il s'agit des usages, quand il s'agit des sacrifices, il dit, j'en parlerai plus tard. Et dernière phrase des antiquités, il dit, maintenant j'ai parlé de la loi, je pourrais expliquer ce pourquoi nous avons le devoir de faire certaines choses, de ne pas en faire d'autres. Mitzvat asé, mitzvat lota asé, fais ceci, ne fais pas cela. Il est nourri de culture mishnaïque. Il a la Mishnah sur le bout de la langue, mais il sait qu'il ne doit pas en parler à n'importe qui, car maintenant, le temple n'existe plus. Le véritable lieu, c'est le Beit HaMidrash et...
C'est-à-dire la maison d'études.
La maison d'études, et tout le monde n'y entre pas.
Où tout le monde y entre, mais c'est-à-dire qu'il y a une véritable révolution chez Joseph, comme chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, le passage d'un judaïsme du culte à un judaïsme de l'étude. Alors c'est formidable parce que nous parlons de Flavius Joseph, de sa culture générale, de sa culture juive qui est extrêmement riche, et de sa culture grecque aussi. Quelle était la connaissance, la maîtrise réelle qu'il avait de cette langue grecque et de cette culture grecque? Olivier Munich.
Je crois que c'est une pure coquetterie ou une prudence politique qui lui fait dire qu'il s'est fait aider par des assistants. Et je voudrais vous montrer qu'il en sait beaucoup sur le grec. Ce qui est important, pas pour Joseph, mais pour la Judée du 1er siècle. Aujourd'hui, Claude Agege peut, dans son appartement, apprendre une énième langue, mais il n'y a pas de singleton culturel. Si Joseph en sait tant, ça veut dire que la culture grecque est très diffusée avant l'époque des Tanaïm. J'en prends un exemple. Il dit que les habitants de Jérusalem, affamés, sont amenés devant les tyrans et leurs gardes du corps. Alors vous savez, quand on est littéraire, on se dit, tiens, pourquoi il parle comme Hérodote? C'est curieux. Et quelques lignes après, il dit que ces tyrans avilissaient la race des Hébreux, firent l'aveu de ce qu'ils étaient, des esclaves, des sang-mêlés, des bâtards. Or, pourquoi des mots si rares en grec? Et pourquoi les Hébreux? C'est très simple. En quelques lignes, Joseph va infliger à ses adversaires politiques juifs la double peine. Les tyrans, c'est la définition chez Platon, République 8, du tyran qui est entouré, il est tellement détesté, de ses doryphores, de ses gardes. Donc c'est la condamnation à la grecque. Mais même si nous sommes nouveaux et que ce nom vraiment récent de chrétien est connu depuis peu chez tous les peuples, notre genre de vie, notre manière de nous conduire selon les doctrines de la piété, loin d'avoir été façonné à l'instant, se dressait depuis, pour ainsi dire, les premières générations grâce à des réflexions naturelles chez des hommes de jadis qui étaient amis de Dieu. Il se trouve que le peuple hébreu n'est pas nouveau, mais qu'il est même honoré chez tous les hommes par son antiquité, en étant lui-même connu de tous. Or, chez celui-ci, des propos et des écrits comportent la mention d'hommes de jadis, rares mais remarquables, qui étaient supérieurs aux autres avant le déluge, certains après celui-ci, en particulier parmi les enfants et les descendants de Noé, Abraham, que les enfants des Hébreux se vantent d'avoir pour ancêtre. Or, tous ces hommes, dont la justice est attestée depuis Abraham lui-même en remontant jusqu'au premier homme, on ne manquerait pas la vérité en les désignant comme chrétiens, dans les faits, sinon de nom. Car pas plus que nous, ils ne se souciaient d'une circoncision physique, pas plus que nous d'une observance du sabbat, ni non plus d'une interdiction de telle ou telle nourriture, ni d'une prescription relative aux autres points que le premier de tous, Moïse, commença à transmettre à la postérité.
Merci Olivier Munich pour cette lecture. C'est un livre, un texte, c'est un texte d'Eusèbe, un père de l'Église. Pourquoi vous avez choisi de nous lire ce texte?
Parce qu'il est lié à Flavius Joseph. C'est en lisant Flavius Joseph qu'Eusèbe a eu cette idée. Je pense à l'article de Pierre Hadot sur la vertu séminale du contresens. Eusèbe lit ce qu'il veut lire chez Joseph. Et finalement, c'est le premier auteur d'une histoire ecclésiastique, et contre le reproche de novitas, de nouveauté du fait aux chrétiens, il va expliquer que les patriarches, ceux qui vivaient avant la loi, étaient des paléo-chrétiens. C'était des chrétiens, ils ont eu des théophanies, pour lui c'était des chrétiens, Abraham était un chrétien, et puis Israël a déchu sur le plan moral, il a fallu le carcan de la loi de Moïse, et puis à l'arrivée du Christ, on revient au niveau. Donc il y a une théologie de l'histoire où il récupère, pour prouver l'antiquité du christianisme, il récupère les patriarches qu'il considère comme des chrétiens avant l'heure, des paléo-chrétiens. Or, cette distinction entre hébreux et juifs, c'est celle que fait Joseph au livre 5. De quoi s'agit-il ? Dans son grand discours, il fait l'éloge des juifs qui prient Dieu sans combattre. Et il les nomme les Hébreux. C'est une catégorie non pas historique mais axiologique, puisque ça ne va pas de la Genèse à l'Exode, mais même jusqu'au livre des Rois. Tous ceux qui ont refusé de combattre ont raison, ce sont les Hébreux. Au contraire, ceux qui combattent le parti de la guerre contre les Romains, ce sont les Juifs. Donc vous avez, d'une manière redoutable, une polarité qui se crée entre les Hébreux qu'il valorise, et il se dit lui-même de race hébraïque, pas de race juive, première page de la guerre des Juifs, donc un terme positif et un terme négatif. On a même vu dans un autre texte qu'il assimilait ces Juifs aux esclaves égyptiens qui se sont mêlés aux Hébreux à la sortie d'Égypte. Donc finalement pour lui, les combattants juifs, ce sont des Égyptiens. N'est-ce pas ? Et il y a quelque chose de très grave, et ici, au-delà de la guerre des armes, en écrivant ceci en 70-75, Joseph s'aventure sur la guerre des mots. Il écrit au même moment que les évangiles synoptiques, à un moment où il y a dans les évangiles synoptiques un usage très négatif. Malgré lui, il est rentré dans une mauvaise logique qui n'était pas du tout la sienne dans les précédents livres de la guerre des Juifs, où les Juifs représentaient la totalité des Juifs. Ici, il adopte le point de vue des Romains, et avec sa culture juive, il théologise l'opposition aux Juifs. Et cette opposition hébreu-juif va sembler du pain béni pour Eusèbe, même s'il la reprend en un sens tout différent. En tout cas, il y a une polarité qu'il crée qui aura une fortune extraordinaire dans le christianisme à partir d'Eusèbe de Césarée, début du IVe siècle de notre ère.
Vous avez dit que, guerre des mots, Joseph a inventé le terme de théocratie. Et il reprend le livre des Maccabées et jusqu'à la guerre contre les Romains. D'ailleurs, dans ce livre des Maccabées lui-même, il y avait une invention de deux mots très importants, puisque pour la première fois dans l'histoire des textes, le mot judaïsme va apparaître, ainsi que le mot hellénisme. On revient un peu au livre des Maccabées, si vous le voulez bien.
Vous avez raison, rien de plus important que les mots. Ça n'est pas seulement la première attestation de judaïsmos qui est exceptionnelle, ni même celle de hellénismos, mais c'est leur coexistence, une tension qui se crée entre l'un et l'autre. Je ne pense pas que ce soit le choc des civilisations. Je pense que la société judéenne est en proie à une grave crise. Onias, le grand prêtre, a été tué. Son frère Jason propose au roi Séleucide que la Judée devienne une police, une cité grecque, qu'elle reprenne les usages grecs. C'est l'époque où les descendants d'Onias quittent Jérusalem, vont en Égypte fonder leur temple à Léontopolis pendant 2 siècles, jusqu'à la fin de la guerre des Juifs. Donc ils ont leur temple. C'est sans doute l'époque où le maître de justice quitte Jérusalem pour fonder sa résidence au bord de la mer Morte. Vous voyez, une vraie crise. Je pense qu'il y a eu sur le plan individuel une crise dont qu'atteste le livre d'Esther. On dit que Ish Yehudi Ayab Ashushan Ish Yemini, Mardoché est un homme juif, mais attention, il est de Benjamin, alors il n'est pas de Judas. On voit ici qu'individuellement se crée une catégorie morale, celle du juif. Il me semble que, sur le plan collectif, le moment de la guerre des juifs est ce moment où certains juifs sont tentés par une forme hellénisée de judaïsme, alors que d'autres résistent. Ça n'est pas le méchant grec, c'est une crise interne, c'est une implosion dans le judaïsme.
Votre homme n'est pas simple à comprendre. Avez-vous des éléments pour situer Joseph par rapport aux sages juifs de son époque, bien que vous en ayez parlé déjà tout à l'heure, Olivier Munich?
Je resterai sur le plan des mots et je vous donnerai un exemple. À la fin du livre 5, le lecteur que je suis voit tout à coup des homérismes, des mots très rares qui viennent d'Homère, en particulier pour de la bouse de vache. Les affamés qui vont chercher des grains dans la bouse de vache. Étonnant. Et puis, par hasard, je lis les Avot de Rabbi Nathan, où on nous explique que Yohanan ben Zakkai voit sur le marché une jeune fille qui cherche dans la bouse de vache des grains. Il va vers elle et il apprend que c'est la fille d'un des trois hommes les plus riches de Jérusalem. Et il cite Shir HaShirim, le cantique des cantiques, à propos de la femme qui va derrière les troupeaux. Il dit à ses disciples, je ne comprenais pas ce verset. Maintenant je comprends. Le peuple d'Israël suit un peuple non respectable et même la bouse de vache de ce peuple. Alors ce que je trouve remarquable, c'est que Flavius Joseph et Yohanan ben Zakkai ont le même instantané, la même photo de l'horreur. Cette recherche de la nourriture dans des détritus. Et ils ont une même réaction. L'un pense à la poésie Shir HaShirim, l'autre pense à Homère. Or je crois que ces éléments concrets nous invitent à dépasser nos antinomies. C'est la phrase de Nietzsche, le devoir désapprendre nos antinomies. Nous avons deux hommes que la tradition a opposés. L'un fonde Yavné, l'autre va raconter à Rome l'histoire des Juifs en grec. Ces deux hommes se ressemblent. J'ai trouvé d'autres textes où Yohanan ben Zakkai dit à son gendre qui est un birion, c'est-à-dire un gardien de la cité. En hébreu moderne, ça veut dire un gros lourd. Mais arrêtez de tuer les gens. Arrêtez. Donc on sent bien que Yohanan ben Zakkai, sur le fond, a la même indisposition que Joseph à l'égard de ce jusqu'au boutisme. Donc oui, un homme compliqué, un homme probablement maladroit, dans son opposition hébreu-juif, un juif fidèle au judaïsme et un grand témoin du judaïsme. Les Israéliens ne s'y trompent pas, puisque dans la recherche contemporaine, ils lisent Joseph en grec, donc c'est Milchamat HaYehudim, les Kadmoniot, et pour eux, ils lisent ça en hébreu parce qu'ils ont moins de familiarité avec le grec. On a un auteur juif qui parle en hébreu, pour eux, c'est l'un d'entre eux.
Nous venons de voir que Joseph est utilisé par Euzem, par exemple, dans le christianisme. Nous venons d'entendre avec vous qu'il a une place prépondérante dans l'université contemporaine israélienne aujourd'hui. Quelle est la postérité de Joseph comme personnage et des études sur Flavius Joseph en général, Olivier Munich?
Je voudrais d'abord compléter ma réponse. Je n'en ai dit qu'un bout avec Euzeb de Césarée. Pour les chrétiens, Flavius Joseph, c'est l'intertestament. Il nous permet d'aller en continuité de l'ancien au nouveau, puisqu'il nous parle d'Hérode, de Pilate, du grand prêtre Caïphe, de Jean le Baptiste, de Jacques le frère de Jésus, et surtout le testimonium Flavianum, le témoignage sur Jésus. Passage probablement interpolé, extrêmement difficile à interpréter, mais vous voyez qu'il fait la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Postérité juive aussi. Le Sefer Yosipon, c'est-à-dire une traduction en hébreu vers le Xe siècle de Flavius Joseph, donc on voit que même si le Sefer Yosipon souvent modifie les événements, surtout l'issue des événements, il est repris dans la tradition juive. Aujourd'hui, il y a des bibliographies de milliers de pages sur Flavius Joseph. C'est un des auteurs les plus étudiés, fondamental sur le plan des études religieuses, fondamental sur le plan des études historiques, donc une très grande postérité, et aussi, on peut dire, depuis une vingtaine d'années, une centralité des études israéliennes à propos de Flavius Joseph, où on a de très bons spécialistes chez nous. Sa postérité n'est pas moindre, puisque Flavius Joseph a été considéré comme le modèle de récit des guerres de religion. Donc, les guerres de religion, Agrippa d'Aubigné réécrit Joseph pour décrire le combat de telle ou telle ville. Et dans la suite aussi, à propos de la commune de Paris, Renan dit qu'une fièvre prend les Parisiens comme la fièvre juive en 70. Donc on a le paradigme de la guerre civile et une fortune littéraire considérable de cet auteur.
Jusqu'à être considéré par les protestants comme le cinquième évangile.
Vous avez raison, c'est Pierre Vidal-Naquet dans un article justement célèbre du Bon usage de la trahison qui dit que toute famille protestante avait son Joseph à côté des évangiles. C'était le cinquième évangile.
Merci Olivier Munich pour ces deux semaines de conversations absolument passionnantes passées avec vous qui nous ont fait découvrir cet univers de la culture juive de langue grecque d'une richesse formidable. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Belles Lettres, Flavius Joseph, La guerre des Juifs, livre 5, dont vous avez révisé la traduction et en avez fait un commentaire très important. Merci encore.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Marc Anawaknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Cédric Châtelus. À la réalisation, comme toujours, Dany Journeau. Vous retrouverez tous les détails biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission. Kol Touv, le Yitraot, au revoir. Bonne fête de Hanouka, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.